volume sur 11, un podcast d'Antoine Dubuquois. De la musique avant toute chose. Ça, c'est Verlaine qui l'a dit. Avec le volume sur 11, ça, c'est Spinal Tap. On n'a jamais autant produit de musique qu'aujourd'hui. Pour les artistes, c'est loin d'être simple de se faire connaître dans tout ce bruit. Dans le volume sur 11, je vais à la rencontre des artistes, à la découverte de nouveaux noms et de nouveaux sons. Dans chaque épisode, une nouvelle rencontre. Il y aura de la pop, du rock, de l'électro, du métal, du punk, du rap, tous les genres. Ouvrez vos chakras, on commence. Mes invités dans ce nouvel épisode du volume sur 11, Lux the Band. Angela, chanteuse américaine, Sylvain, guitariste français. Leur deuxième album, Gravity, est sorti il y a quelques semaines, du rock nommé de folk, qui n'est pas sans rappeler 10,000 Maniacs, un groupe des 90s que j'aime beaucoup. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a donné envie d'en savoir plus sur ce groupe. Alors bonsoir Angela, bonsoir Sylvain.
Bonsoir.
Salut Antoine.
Hello.
Hello.
Salut tout le monde.
Ouais.
Oui.
Dans votre dossier de presse, là, j'ai vu vous parler à propos de votre musique de Velvet Rock. Alors, c'est quoi le Velvet Rock?
Angela. c'était son idée, c'était l'idée d'Angela.
Le tout premier enregistrement qu'on a fait était un EP, ouais. Qu'on a fait aussi au studio Black Box en France.
Ouais.
Et en parlant avec Peter Dymel, qui a le studio Black Box et qui est l'ingé son avec qui on travaille depuis presque le tout début, je lui avais demandé, parce qu'on nous demandait par rapport à Lux, quelle était la musique, quelle sorte de musique. C'est une des premières questions quand tu dis aux gens que tu fais de la musique, c'est « Ah, mais c'est quelle sorte de musique ?»
Mm-hmm.
Et j'avais un peu du mal parce que j'ai toujours résisté à des étiquettes. Et pour moi, c'était rock, mais je me suis rendu compte après que ma définition anglo-saxonne, new-yorkaise, moitié anglaise du rock était différente que parfois le mot rock en France peut... Les gens imaginent différentes choses selon l'endroit où on se trouve.
D'accord.
Et parce qu'il y a différents éléments dans notre musique qui nous distinguent peut-être, on n'est pas hard rock, on n'est pas purement... on n'est pas rock anglais, on n'est pas complètement filthy New York. Et donc, c'était une sorte de musique qui était évidemment aussi très folk par côté. Sylvain, c'est un guitariste connu blues rock. Et donc, Peter a suggéré qu'on trouve les mots, les adjectifs qui décrivaient un peu ce qu'on faisait. Et c'est comme ça qu'au bout d'un moment, j'ai atterri sur Velvet Rock, qui pour moi englobait bien le truc. Il avait la notion de rock, un rock peut-être un peu élégant. On a un pote musicien qui dit souvent qu'on est le groupe avec les cheveux lavés tout le temps, ça brille. Et le fait qu'on portait parfois des vestes en velours sur scène, ça dénotait un peu. Et puis j'aimais bien aussi le clin d'œil. Dès qu'on dit velvet, ça fait une connotation. The Velvet Underground, New York.
Alors, oui, mais c'est pas du tout. Musicalement, c'est pas du tout ça.
C'est pas forcément. C'est pas qu'une référence, référence musicale.
Une référence, ouais. Ouais. Alors, racontez-moi votre parcours musical à tous les deux. Qu'est-ce que vous avez fait avant et comment vous êtes rencontrés et vous avez eu envie de monter ce projet?
Moi j'ai commencé la guitare assez jeune, comme beaucoup de petits garçons dans leur chambre. Il y avait une guitare qui traînait à la maison, j'ai commencé comme ça. Et puis après, à l'adolescence, j'ai vraiment eu envie de faire que ça. Et du coup, j'ai commencé vraiment à jouer beaucoup, beaucoup, beaucoup de guitare dans ma chambre. Et après, j'ai trouvé des gens avec qui jouer. Et ça m'a emmené à... un peu quelques années après, à accompagner quelques groupes.
Mmh.
Et ça ne s'est jamais vraiment arrêté depuis, mais c'était à la base une passion et c'est devenu un mode de vie.
Un mode de vie, carrément. Et toi, Angela?
Well, Sylvain, il a un parcours beaucoup plus intéressant. Moi, je n'arrive pas à facilement distinguer... où ça a commencé, parce que j'ai l'impression que par rapport à la musique que je continue à écouter, qui m'a influencée, qui j'aime, j'ai l'impression que cette musique était toujours là. Mm-hmm. Et un peu là où je peux rejoindre Sylvain, c'est dès mon vraiment jeune, j'aimais beaucoup chanter. chanter, c'était vraiment, c'était quelque chose de naturel. Et j'avais, comme toutes les petites filles qui chantent en écoutant la musique, à tue-tête. Et d'ailleurs, Chemical Love sur cet album est une chanson sur ce sujet. Pour tous les jeunes enfants qui chantent dans leur chambre ou qui jouent la guitare dans leur chambre. Et ensuite, progressivement, ça devient quelque chose qu'on ne veut plus abandonner. Mais pour moi, la différence, c'est que je suis arrivée à un projet un peu plus dessiné, c'est-à-dire le projet actuel, plus tardivement. J'ai toujours chanté. Dans la famille, il y avait toujours mes grands frères et sœurs, je suis la plus petite, ils jouaient tous les guitares, tout le monde chantait. Et aussi, je pense que le fait que je suis de New York, et j'ai été dans une école à New York, New York, c'est une ville où la musique et acting, théâtre, tout ça, ça fait partie du parcours académique.
Oui.
Et tout le monde chante. Les Américains chantent bien en général. Oui. Et même en Angleterre, j'ai plein d'amis qui travaillent dans un domaine et quand ils sont pas au bureau, ils sont dans les garage bands. Donc oui. cette sorte de cette cohabitation de la musique avec le reste de la vie m'a jamais vraiment troublée. J'ai l'impression que dans le vieux monde, les distinctions entre ceux qui font la musique et ceux qui font pas de musique, et la ligne est plus strictement dessinée. Mais par rapport à un truc où il y avait une architecture plus solide, mieux dessinée, ça c'est vraiment récent, juste avant que j'ai rencontré Sylvain. Et le grand différence, c'est que ce qui a changé, c'est quand j'ai commencé à écrire les textes. Ça a changé la donne pour moi.
Ouais. Alors justement, quelle est l'alchimie en fait entre vos deux approches? Donc, tu écris les textes, Sylvain compose. Qu'est-ce qui vient en premier en fait dans le processus créatif?
Ça dépend. Ouais. Ça dépend quand on a commencé au début. En fait, vraiment tout au début, Angela, elle avait beaucoup de textes, beaucoup de paroles. Donc elle me donnait un ou deux textes écrits et puis moi je revenais quelques temps après avec une chanson. Mais ça, c'était vraiment, on va dire, quoi, les 10, 15 premiers morceaux.
13.
13 premiers morceaux.
13 à 15, ah, okay. Tu dirais.
et puis depuis, en fait, c'est beaucoup plus fluide. Des fois, j'ai une idée de mélodie, enfin, je lui donne une musique et elle écrit des paroles dessus. Je lui donne quelques Lala Tracks. Des morceaux avec une guitare acoustique et une petite mélodie, et puis elle fait le texte pour que ça colle. Ça, dernièrement, c'est un peu comme ça.
Oui, je crois que ça, c'est quelque chose qui a évolué dans le temps, parce que je n'étais pas sûre de moi au début. J'avais toujours plein de choses à dire, et les limitations de la chanson, d'une chanson, qui par définition, sauf si tu es The Doors. Normalement, ça se restreint à toi à 4 minutes 30.
5 minutes pour nous.
OK, 5 minutes pour nous parce qu'on parle trop, on a trop de trucs à dire. Ou peut-être c'est juste les soli, les guitares.
Oui. Si tu enlevais les solos, oui, ouais,
ça serait plus court. Ouais. Mais je pense que les restrictions imposées par une chanson, ça m'a fait du bien. Ça m'a aidé à focaliser et être plus concis parce que tu n'as pas le temps. T'as pas le temps dans une chanson à t'égarer trop.
Ouais.
Faut pas trop vadrouiller. Et ce qui était qui est pas, parce que j'écris depuis un moment maintenant, parfois pour d'autres artistes, et parfois les chansons qui sont un peu déjà esquissées, d'autres qui sont juste la musique, parfois quelqu'un a déjà une idée de ce qu'ils ont envie d'exprimer, mais en anglais ça leur pose problème. Donc toutes les possibilités sont, les variables peuvent être différentes, mais avec Sylvain en tout cas c'est quelque chose qui a été extrêmement facile et naturel. Et dès le départ j'ai travaillé en confiance. Au début j'avais des textes, ils revenaient avec les chansons, parfois j'avais rien à ajuster dans le texte et parfois j'avais du découpage et de editing à faire qui était plus ou moins important. Et tout ça, c'était easy et très agréable. Donc, tu le fais une fois, ça marche. Tu le fais deux fois, ça marche. Et c'est un peu comme chanter sur scène. Le plus que tu le fais, si ça se passe bien, le plus que tu as envie de le faire. Ouais. C'est une sorte de drogue, en fait.
Et alors, qu'est-ce qui vous inspire, justement, pour les textes et pour la musique, en fait? Est-ce que, finalement, les deux albums, il y a une ligne directrice dans chacun? Est-ce qu'il y a c'est quoi, ces observations? C'est quoi?
Je pense que c'est beaucoup plus... comment dire, plus pas fluide, mais
moi je pense que c'est chanson par chanson.
Il y a une part de hasard aussi.
Oui.
Et en fait, quand je trouve une mélodie ou une suite d'accords, souvent je sais si ça va le faire ou pas. Et comme j'enregistre rien, en fait, je joue des.
Quand tu crées. Quand j'enregistre après.
Oui, j'enregistre après, mais en fait, mon truc, c'est de jouer sur le canapé avec une guitare électrique débranchée ou une guitare acoustique. Et puis, si je vois que ça, il y a 3-4 accords qui suivent bien et avec un bon rythme, eh ben, je le laisse comme ça. Et si 2-3 jours après, je m'en souviens encore, c'est que c'était pas mal.
Pour les textes, tout est bon à apprendre. Hein.
Tout Moi, est bon à apprendre.
J'ai pas de. C'est un peu redondant ce que je dis parce que d'autres l'ont dit et mieux que moi et sans accent. mais il y a. C'est vrai, un coach vocal qui est à Paris, mais qui parle anglais, donc qui m'a beaucoup aidé au début pour me donner un peu de technique parce que j'avais toujours juste chanté, quoi. Et elle m'avait dit qu'il n'y a que deux sortes de chansons, les chansons d'amour et les chansons de protestation. Et ouais. c'est pas faux. Moi, ce que j'aime bien, c'est de prendre les détails ou un sentiment, ou même un mot. Gravity, au départ, est un mélange. Par exemple, la chanson, je dis pas tout l'album. Ça a commencé, le thème m'est venu dans un rêve. Et le titre m'est venu parce que j'avais un ami qui avait été essayer un cheval, qu'elle voulait acheter un cheval. Et le cheval, qu'elle n'a pas acheté d'ailleurs, s'appelait Gravity. Et je dis, tiens, j'aime bien ce mot. Et j'aimais bien ce mot parce que j'aimais bien la sonorité, j'aimais bien les trois syllabes et j'aimais surtout le fait que, et la raison pour une des raisons pour lesquelles c'est le titre de notre album, vient du fait que ça avait le même double sens en français et en anglais, c'était très proche. Et ça me plaisait. Et ça collait avec l'idée du texte qui m'est venu un peu dans un rêve, où j'ai fait un rêve où il y avait mon père qui me demandait si j'étais perdue. Et c'est à partir de là. D'accord. Et à partir du moment où j'ai une idée, ensuite, je peux le développer en sachant que, encore une fois, on n'a pas le temps d'aller trop loin dans une chanson. Moi, j'aime bien les chansons imagées et j'aime bien les mots. Donc, chaque fois, c'est un terrain à découvrir quand on écrit une chanson.
Au début de l'interview, tu parlais justement de la différence de perception, en fait, le rock vu de France, le rock vu des États-Unis. Quel a été ton plus grand choc en débarquant en France et en voyant effectivement à la fois il y a la chanson, il y a la variété, il y a le rock. Est-ce que la France est un pays idéal pour le rock?
Oula. je pense que il y a différents éléments qui rentrent en jeu. Il y a une grande industrie musicale dans un pays comme les États-Unis, avec beaucoup beaucoup d'éléments et de styles différents. Qui évidemment le rock, ça vient de blues, et puis la musique qui vient d'Angleterre, Celtic music, Donovan a dit que c'est lui qui a tout fait. Donc tous ces éléments là, je l'ai en moi. Et en France, vous avez pas les mêmes racines. Et je pense que une des grandes raisons pour lesquelles le rock a démarré dans les pays anglo-saxons vient de la langue. Je pense que la langue française, qui est une très belle langue, n'est pas vraiment la langue la plus facile à faire sonner avec la musique rock. Il y en a ceux qui réussissent à le faire, mais je pense que c'est un vrai challenge. Or, les sonorités déjà naturelles dans la langue anglaise,
le rythme et le
côté, l'impact qu'on puisse avoir, parce qu'on va jusque la dernière lettre d'un mot, est très différent que dans une langue où on laisse en suspens le dernier son.
Alors, ça dépend. En France, on rajoute des muets, souvent.
Oui, mais ça, c'est la triche. Donc pour moi, et puis évidemment parce que chaque pays a son côté chauvin qui a envie de défendre leur langue et leur culture, je pense que c'est complètement normal et logique que les belles chansons en français sont pas forcément dans le registre rock. Ouais. Est-ce que je vais avoir des soucis après avoir
Je sais ça pas, Angela, on verra si la ligue des chanteurs de rock français t'attaque.
Mais j'ai dit qu'il y a des exceptions, mais c'est vrai que c'est pas... J'avais pas pensé à...
Non, mais ça
à
va, t'as bon cité personne, okay. C'est bon.
Mais Italie non plus, hein.
Oui, c'est encore une romance autre musicalité.
Languages. Romance languages sont plus... Latin languages sont peut-être mieux taillés pour faire d'autres sortes de sons.
Ouais. Alors, quel a été votre, à tous les deux, votre premier grand choc musical, peut-être celui qui a déterminé vos choix de carrière, votre envie de monter sur scène ou de créer de la musique?
Bah, moi, c'est facile, hein, je crois. C'est la première fois que j'ai entendu un disque d'AC/DC.
Ah oui.
Je devais avoir 11 ans, 12 ans, et c'est comme ça que tout a commencé, en fait. Par AC/DC. Alors, je suis pas resté à AC/DC, mais après, j'ai découvert les Stones, les Beatles, Led Zeppelin, tout ça. Mais AC/DC, ça a été un énorme choc pour moi, avec la puissance du son, un chanteur qui chante super aigu, une batterie rock, une guitare folle. Ça, c'était une rythmique. En fait, c'est la rythmique d'AC/DC qui m'a donné envie de faire de la musique. D'ailleurs, quand j'étais enfant, je voulais être AC/DC, tout seul.
Tout seul.
Moi, je n'ai pas une bonne histoire pour... C'est beaucoup moins intéressant, en fait.
Angela.
Si, parce que je me sens responsable de rien. Je suis née dans un contexte qui prêtait à que j'entende tout de suite, toute ma vie. Je n'ai pas de souvenir de n'avoir pas entendu The Beatles...
Oui, mais
le premier morceau
qui t'a fait wouh!
Non, tous. The Beatles, it has to be The Beatles.
Alors, je vais rebondir là-dessus parce que moi, avant AC/DC, quand même, vu qu'on est en France, il y avait un morceau qui passait sur. Parce que je suis un enfant des années 70. Et quand il y avait une interruption de programme sur les chaînes publiques, je crois, il y avait Love Is All de. C'était quoi le.
C'est Roger Waters. Butterfly
Ball.
Butterfly, oui, c'est ça. Ouais.
Et ça, le clip que j'ai vu du coup des centaines de fois, ça aussi, ça m'a... Alors, peut-être que c'était mon premier émoi musical, sans le savoir.
Et le premier album acheté.
Acheté
Volé.
Ça, c'est moche. Ça, c'est moche parce que le premier album acheté, c'est pas forcément... Moi, j'avais acheté une compile de rap. En CD. C'était dans un supermarché en banlieue parisienne. Mais je l'ai brûlé depuis longtemps.
Pas de trace.
Non, je l'ai donné.
Moi, je ne sais pas. Il avait la musique Bob Dylan, Joni Mitchell, Crosby, Stills, Nash & Young, The Who.
Oui, mais acheté, Angela, acheté.
Mais je ne sais pas, parce que c'était déjà, tout était déjà là. Moi,
tout était déjà là.
Mes souvenirs plutôt, c'était de regarder la collection des albums. Ouais. Mes parents, c'était moins intéressant que celle de mes frères et sœurs.
Ouais.
Donc, famille recomposée, donc petite dernière et... J'étais toujours en train de suivre les autres, en fait. J'étais pas en tête. C'était pas moi qui est allé chercher cette musique-là. Cette musique était déjà là quand je suis arrivée. Donc, je saurais pas, en toute honnêteté, dire quel est l'album que j'ai acheté. Mais je peux dire que je me rappelle, en vacances une été, on avait acheté... À une époque, c'est un peu compliqué, mes parents avaient passé du temps à Portugal et il n'avait pas grand-chose. Et quand on avait été acheter, je ne me rappelle plus, quelque chose pour la maison, il n'avait que 3 disques. On avait acheté un ton de disques pour les vacances et il ne vendait que 3 disques. C'était vraiment très limité. Genre, tu as acheté le ton de disques et tu avais 3 disques avec. Et c'était un album de Stevie Wonder.
Ouais.
I think it was... Peut-être Inner Visions, maybe Inner Visions, ou Fulfilling This First Night. Enfin bref, il avait Stevie Wonder, il avait The Beatles, The Red and the Blue album.
L'album rouge et l'album
blanc. Et Elton John, Goodbye Yellow Brick Road.
Des belles références quand même.
Avec le tourne-disque.
C'est pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal.
Vive les années 70.
Voilà.
Bah oui, les années extraordinaires.
C'était important, peut-être. Ouais. En tout cas, mais encore une fois, la chanson de Beatles préférée de mon père était Hey Jude. Mmh. Il était anglais, il était de Londres. Mmh. Donc, et comme je disais, mes frères et sœurs, ils jouaient un peu guitare et des trucs folk. Donc, pas beaucoup de mérite, moi. J'étais entourée de ça. Et puis, la radio à New York. J'ai une faculté de mémoriser les choses. Mmh. Je suis très fort pour dire... Ah, ça, je l'ai déjà entendu avant. Mmh. Et trouver ce que c'est. Et ouais. Même les choses que j'aime pas, je peux les chanter. Même les jingles pour les pubs, je peux les chanter. C'est juste comme ça.
Ouais.
Ça, c'est vrai. Je suis très bon pour... si notre musique est pas très... copie pas des autres, c'est parce que...
C'est une bonne idée pour dans le concept de concert.
Ouais.
Chanter les jingles.
Ah ouais. Ouais, ça peut être très, très cool. Il en faut beaucoup. Alors justement, puisqu'on parle de concert... Vous avez un souvenir de votre premier concert, la première fois que vous avez mis les pieds dans une salle, et là aussi, est-ce que ça a été une espèce de révélation?
Moi, mon premier concert, c'était pas du rock, c'était de la musique classique, parce que mon grand-père était violoniste dans un orchestre classique à Colombes, et du coup, enfant, j'allais tous les ans, une fois ou deux, au concert de musique classique. Et à l'époque, j'y allais, j'étais ni pour ni contre, j'aimais bien, mais ça me parlait pas trop, la musique classique, et en vieillissant, je me rends compte que j'ai eu de la chance quand même de connaître ça suffisamment tôt, mais ça c'était ma première expérience de concert, avec des vrais musiciens sur scène et du son...
Moi, j'ai l'impression d'avoir été sur scène dès la naissance.
Toi?
Oui.
Mais sur scène.
Oui, mais on a envie d'être sur scène. Moi, mes premiers souvenirs scéniques, c'est parce que ça va être très étrange pour les gens qui écoutent. Mais comme j'ai dit, mon grand frère et mes sœurs jouaient la guitare et mes sœurs et tout le monde chantait. Et je me rappelle, mes parents nous faisaient chanter, plus eux. Moi, j'étais vraiment petite. Et quand ils avaient les fêtes, à la maison, quand ils avaient des invités.
Ah oui, mais toi, tu parles de première expérience de scène en tant que chanteuse.
Oui, je ne suis pas autant que quoi.
Alors, je ne sais pas, Antoine, sois spécifique.
Non, mais c'est... Alors, et moi, j'irais les deux aussi, mais c'est vrai que parce que venant de la part de quelqu'un, moi en l'occurrence, qui ne joue d'aucun instrument, donc effectivement, les émotions, c'était la première fois que je suis allé... un concert de rock, voir, écouter et vibrer. On raconte toujours que, je sais pas, tous les gens qui sont allés voir le Velvet Underground ont créé un groupe en sortant, dans les semaines qui ont suivi. Wow, c'est un peu une légende urbaine,
parce que ça ferait du monde quand même.
Ça ferait du monde. Bah oui, c'est comme si les gens qui ont vu les Sex Pistols au Chalet du Lac à Paris, je crois que tu as de quoi remplir le Stade de France.
Je crois que moi aussi, on m'a amené dans des trucs classiques parce que ça faisait partie de l'école.
Ouais.
Et c'était assez impressionnant quand même.
Ouais.
À New York, Philharmonic. C'est des choses
Le premier concert rock auquel vous êtes allé, c'était quoi?
I don't know.
Moi, c'était Deep Purple en 91, je crois.
I don't know.
Pour la tournée The Battle Rage On. C'était la dernière fois qu'on a vu Richie Blackmore sur scène avec eux.
Ah,
et
oui.
C'était mon premier concert et je devais avoir 13-14 ans. C'était au Zénith, dans mes souvenirs. J'ai toujours le poster dans mon ancienne chambre chez mes parents.
Moi, je n'allais pas souvent au concert. La musique, pour moi, c'était plus intime. C'était vraiment singing, chantant sur les chansons. On n'allait pas souvent au concert. C'est venu beaucoup plus tard.
Ouais.
Et d'ailleurs, mes meilleurs souvenirs de concert sont beaucoup plus récents, ceux à lesquels j'ai assisté.
Ouais. Alors, justement, on a traversé là une période de quasiment 2 années où il n'y a pas eu de concert avec les pandémies, confinement, couvre-feu, etc. Bon, on sait que ça a eu un impact énorme sur l'industrie musicale. Comment est-ce que vous avez vécu cette période? Est-ce que ça a été un stimulant en termes créatifs? Est-ce que vous avez plus composé à ce moment-là ou alors pas du tout?
Complètement.
C'est marrant parce que c'est comme quoi le même contexte peut être perçu différemment. Parce que ma version des faits, c'est qu'avant, on avait déjà certaines chansons qu'on savait qu'on voulait faire un deuxième album, parce que dès que tu fais un premier album, il faut penser au deuxième album. Ouais. Si l'expérience est agréable et si tu écris des chansons régulièrement, qui est notre cas. Et il y avait quelques chansons que pour moi, me disaient déjà qu'il fallait préparer un deuxième album. Après le premier album qui était Super 8, on avait ressorti l'album avec deux chansons de plus en juin 2019. Et déjà, il y a des chansons que j'avais écrites sur la musique de Sylvain en 2018 ou 2019, notamment A Son of Sam. Et je savais tout de suite que cette chanson voulait dire qu'on allait faire un autre album.
D'accord.
Donc, quand Covid est arrivé, la différence, c'est qu'on était... il avait moins de distractions. Et Sylvain avait une plage de temps. Tu ne pouvais pas esquiver, être distrait par autre chose.
On était à la maison 7 jours sur 7, 24 heures, 23 heures sur 24.
Et donc, parce qu'on avait déjà des chansons, et certaines chansons ont été écrites beaucoup plus récemment, mais on avait en tout cas une partie des chansons, et donc ça permet à Sylvain, en 2020, de tout maqueter. Une fois maqueté, de l'envoyer au batteur, parce que quand Sylvain maquette ici sur un 34, 36 pistes.
Non, c'est une 20, 30, attends, je sais même plus, 24 pistes. Mais voilà. Bon, c'est
un peu à l'ancienne. Et il utilise un boombox,
une
boîte à rythme. Et ensuite, une fois que la maquette finit, on envoie au batteur pour qu'il met une vraie batterie. Tout ça, c'est effectivement, ça s'est passé pendant les mois
les deux mois de confinement. Ouais.
Et ça, c'était bien, parce que l'album est sorti en 2022, parce qu'on a retardé la sortie de l'album, parce que, mais il était enregistré l'été 2020,
D'accord.
Et ce qui était un facteur qui a ralenti la sortie était le fait que tout le monde qui avait attendu sortait les albums, et en étant indépendant, il fallait trouver un soutien pour l'album, il fallait trouver attaché de presse. On a créé une structure pour fonctionner comme un label et il fallait avoir une distribution. Et surtout, c'était l'aspect attaché de presse. Ceux avec qui on voulait travailler étaient super bookés aussi.
Oui, il y a eu un encombrement, effectivement.
Bah oui, c'est ça.
Oui, tout le monde en même temps. Et même maintenant, d'ailleurs.
Oui, ça a perturbé vraiment le rythme de l'industrie. Quoi. C'était assez compliqué. Alors, justement, vous mentionniez A Son of Sam. Donc, on va écouter A Son of Sam. J'ai lu les paroles, etc. Bon, Son of Sam, c'est un célèbre serial killer. L'histoire de cette chanson, qu'est-ce que ça raconte en fait? Quel est le fond de cette chanson?
En fait, quel est le mot que je cherche? J'étais peut-être un peu légère avec le fait que j'ai intitulé la chanson A Son of Sam. Et c'est très important que ça s'appelle A Son of Sam et pas Son of Sam. Elliot Smith a déjà écrit une chanson, je ne sais pas si vous l'avez entendue.
Oui, je l'ai entendue.
Qui s'appelait Son of Sam. Et d'ailleurs, il y a plein d'autres parce que par la suite, j'ai regardé j'étais encore une fois pas unique dans cette idée. Mais en fait, la chanson ne parle absolument pas du serial killer. J'ai utilisé ça parce que je cherchais quelque chose, une image forte à laquelle je fais référence une ou deux fois tout au long de la chanson, le summum de quelqu'un qui n'était vraiment pas ce qu'on pensait. C'était le monsieur passe-partout qui était peut-être un peu bizarre, mais personne n'a soupçonné qu'il était capable de tuer les gens comme il a fait. Et il a été arrêté presque par hasard. Et ça m'a... La chanson, en fait... Même s'il est mentionné, comme un cas d'école, comme un exemple.
Ouais.
Le pire exemple de quelqu'un sur lequel tu peux trébucher qui est vraiment pas ce qu'il semble être. Et la chanson parle dans le premier couplet, ça parle des personnages le premier personnage, c'est quelqu'un qui est très scindé en deux, comme on peut rencontrer des gens qui sont très différents dans leur vie privée que dans leur vie professionnelle les gens que tu puisses avoir une relation forte, et ensuite tu te rends compte que c'était pas du tout ça, et ensuite ça passe à quelqu'un qui était fait de mensonges, et ensuite ça passe à quelqu'un qui connaît l'amour, et donc lui c'est un peu le sauveur dans l'histoire.
D'accord.
Et souvent dans mes chansons les plus sombres il y a un note positive, lui c'est le sauveur. Et d'ailleurs dans le refrain, en fait le refrain, comme c'est souvent le cas, explique le sujet de la chanson. Et dans le refrain, je dis « Life and death, side by side, in between there's a very fine line ». Donc la vie et la mort sont super proches. Ouais. Et entre les deux, il y a une ligne très très fine, très très fine. Ouais. Et la beauté, en français, ça serait la beauté tu trouveras dans ces champs de mine. D'accord. Et je trouve que c'est un peu ça la vie, quelque part.
Ouais.
Si on veut prendre une perspective un peu dark, c'est de dire qu'on trouve de la joie, on trouve de la beauté, mais parfois il faut faire attention où on met les pieds, ou en tout cas à qui on donne son cœur. Parce que les gens sont pas... C'est un thème de déguisement qui est aussi, dans le deuxième chanson de l'album, repris, mais d'un tout autre point de vue, dans The Actor. C'est aussi une chanson sur ce thème de déguisement.
D'accord. Et on écoute A Son of Sam, Lux the Band. Donc c'était A Son of Sam, un extrait, le premier titre de l'album Gravity, donc de Lux the Band. On va passer à l'interview express. Quelques questions, ce ne sont pas des questions pièges, mais qui peuvent être un petit peu embarrassantes. Enfin, embarrassantes.
Comment tu dis Fifth Amendment?
Hein?
I plead the fifth.
Je ne sais pas.
Ah oui, oh, bah oui, je plaide le cinquième amendement. Oui, ça, ok.
Ça existe.
You have the right to remain silent.
Ok, remain silent.
Ok. Non, alors c'est très simple, en fait. Pour une raison, je dirais, qui nous difficile à définir, je sais pas, attaque des Russes, des Chinois, attaque des zombies, vous devez vous enfuir et vous ne devez garder qu'un seul album, prendre avec vous un seul album de toute votre collection.
Qu'on écoutera jusqu'à la fin des temps.
Oui, parce que tant que la situation n'est pas revenue à la normale, mais spontanément, vous partiriez avec quoi ?
Gravity.
Tu sors.
Non.
Un petit stock pour vendre sur place.
C'est ça.
Un peu de merch.
Ben non, non.
Heureusement, il ne t'a pas demandé quelle est la guitare que tu choisirais.
Oh, mais mais choisir un album, c'est super dur. On peut prendre un double album ?
Oui, bien sûr. Même deux, on peut tricher aussi. On peut tricher. Ou voir trois.
Jeff Buckley, Grace.
Oh non.
Ok, efface. I don't know. What do you want me to say? Je ne sais pas. Moi, c'est un choix impossible. It's like, quel enfant tu choisiras ? Ce n'est pas possible de choisir.
Mais si,
tu pars avec rien. Un crayon, un papier.
Tu pars juste avec tes souvenirs.
C'est beau.
Moi, je prendrais quand même un Beatles.
Revolver.
Ou alors non. Si on partait ensemble, tu prendrais un Beatles.
C'est ça, exactement. Je prends les Beatles.
Et moi, je prends un album d'AC/DC.
Ok, voilà. je crois que ça résume un peu notre musique d'ailleurs, quelque part.
The Beatles meets AC/DC, d'accord.
Non, on peut faire les harmonies nous-mêmes.
Ouais. Et alors. Si vous devez, choix absolument encore pire en fait, ne garder qu'un seul titre de toutes vos collections, vraiment, est-ce qu'il y a chacun de votre côté, vous avez un titre qui est vraiment celui que vous placez au sommet.
De nous ou de quelqu'un d'autre?
De quelqu'un d'autre.
Oh, non, non.
Moi, j'en ai quelques-uns.
Moi, j'ai tous les jingles dans ma tête encore.
Et encombré.
Je suis encombré. T'as pas d'idée.
Tu veux pas nous en chanter un d'ailleurs?
Non. Non, non.
Mais si.
Non.
Un petit, un court.
Non.
Bon, ok. Moi, un morceau qui m'a marqué, c'est A Day in a Life des Beatles sur Sgt. Pepper.
Okay.
Et ça, c'est.
Je mets ma vote avec toi, comme ça, on est sûr.
Ouais. Ouais.
C'est vrai.
En plus, il y a quasiment deux morceaux en un, en plus.
C'est ça. C'est pour ça aussi. Ouais. Mais là,
on triche à mort, en fait.
Le piano final est quand même.
Oui.
Ça, je pourrais l'écouter tous les jours.
Ouais.
Alors, est-ce qu'il y a une chanson, un album, un son qui vous plonge dans une tristesse absolue, qui vous plombe complètement?
J'allais dire. Non. Non, non, non.
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 Je sais à quoi tu penses, Angela, mais on ne peut pas le dire. Tristesse, non. Nostalgie, peut-être.
Tristesse, dans le bon sens ou dans le mauvais sens?
Je laisse le choix. Ça peut effectivement plonger dans une dépression totale. C'est le truc qui plombe.
Parce qu'il a la beauté de Nick Drake, par exemple.
Oui.
Ça me touche profondément.
Oui.
Mais c'est beau.
C'est beau.
Mais c'est triste.
Un artiste qu'on a découvert récemment, et je disais ce matin qu'elle vient de gagner un Grammy Award, s'appelle Madison Cunningham, et elle a une chanson sur sa grand-mère qui est morte pendant Covid, et elle est très influencée par Joni Mitchell, et elle le joue, elle est super guitariste, et franchement, elle résume beaucoup de choses dans une seule chanson, et ça me met assez à plat aussi.
Mais c'est compliqué comme choix, parce que des fois, même des chansons gays te ramènent à une époque où t'étais triste. Donc, des fois, c'est pas forcément les chansons les plus tristes qui te font pleurer.
Ça, c'est vrai, parce qu'il y a des chansons que j'associais à un moment où j'étais pas très heureuse. Et ils étaient pas particulièrement tristes.
Et alors, à contrario, une fois qu'on est un peu down quand même, qu'est-ce que vous écoutez justement pour là, en revanche, pour avoir la pêche, pour vous booster, pour être en pleine forme, pour être joyeux?
Je sais pas, j'écoute, dans ma nature, je suis pas très chanson joyeuse, mais J'ai aucun disque de Patrick Sébastien, par exemple. Peut-être simplement du funk, enfin de la soul.
See, what's the one that I like from? Is it Superbus?
Hein?
No, that's not it. What's it called? Oui, il faut quand je attends, je vais revoir ma copie. But maybe Supertramp, you know, the Breakfast in America or Queen. You know, Freddie Mercury is always a buzz.
Ah oui, c'est quoi la chanson d'ailleurs? Ça a été élu la chanson là, qui te donne le plus la pêche le matin.
Je sais pas.
De Queen. Non, tu vois pas laquelle c'est?
Non, mais bon, ils ont plein de chansons qui sont dans cette veine-là. Ouais. I'm going with Queen.
Queen. Ok. Ouais. Moi, un bon...
Toi, c'est ABBA, c'est sûr.
Ouais.
Dancing Queen. Ça
peut le faire un matin, hein. Ouais. Un dimanche matin pluvieux. Tu te mets un ABBA et c'est parti.
Ouais, c'est très joyeux. Et est-ce qu'il y a des titres, des artistes, des choses que vous pouvez absolument pas ou plus écouter? Ou qui provoque vraiment chez vous une espèce de sensation de rejet. On n'est pas obligé de citer des noms, on peut aussi.
Moi, j'aime bien donner des noms, ça me dérange pas du tout. Mais vas-y. Tu veux dire des choses qu'on a trop écoutées et qu'on ne peut plus écouter, ou des choses qu'on n'a jamais pu saquer?
Voilà, il y a aussi ça. Il y a aussi ça qui est intéressant.
Vas-y, Sylvain.
Non, mais je vais voir si je donne des noms. Mais on évolue tous. Hein. Il y a des trucs que, effectivement, j'écoutais à l'adolescence ou un peu plus tard et que je ne peux plus écouter maintenant.
Moi, je crois qu'on est... Moi, je n'ai pas besoin de donner des noms, mais c'est vrai que je peux réécouter des groupes que j'aime toujours. Like, what is it? Like, Depeche Mode or Psychedelic Furs or The Stranglers. Mais le son des années 80, franchement, ça, c'est impossible pour moi. Ça tient qu'à moi. Hein.
Ouais. C'est toujours très subjectif de toute façon.
Mais c'est vrai que ça se ressent dans notre musique. Pourquoi on aime les choses qui sont analogues? C'est parce qu'on aime un certain son. Le recherche du son est super
propre quand même.
Mais pas trop. Quand même.
Oui, c'est analogue, mais avec les cheveux propres et un peu de déodorant.
Ouais, c'est important. Je sens que c'est un point clé. Alors justement, puisqu'on est dans les révélations, vous avez quelques petits plaisirs coupables ou des choses qui sont bien cachées au fond de vos collections de MP3, de disques que vous écoutez avec une certaine jubilation, mais votre entourage n'est pas forcément n'adhère pas forcément à cette.
Ça sortira pas d'internet.
Non, ça sortira pas d'internet de toute façon.
Ok, bon c'est bon alors. Mais alors moi j'ai un truc. Angela se moque de moi depuis des mois maintenant.
Ah oui. Ah oui, c'est trop marrant.
Un morceau de Kacey Musgraves qui s'appelle Slow Burn.
Moi, je passe mon tour parce que Sylvain, il a déjà dit des trucs tellement énormes.
Non, mais j'ai pas honte. Enfin, si, j'ai un peu honte quand même. Mais bon, si tu me dis que ça sort pas du net, c'est bon. Mais si vous tapez Kacey Musgraves et Slow Burn,
je vais faire la recherche.
Il faut dire qu'il y a un certain snobisme par rapport à ce qu'on dit qu'on aime. C'est plus cool de dire qu'on aime, you know, I don't know, Nirvana, PJ Harvey, les choses qu'on aime sincèrement que de dire.
J'ai jamais trop aimé Nirvana, par exemple.
Adele, mais c'est des chansons qui sont bien, hein.
Oui, mais tous les goûts sont dans la nature.
Mais exactement.
Mais it depends if you're, si t'es un snob.
Ouais, moi, Nirvana, j'ai aimé parce que c'était ma période. Mais par exemple, j'écoute jamais de Nirvana. Enfin, rarement. Et quand j'en écoute, je trouve ça cool. Mais c'est pas dans mon ADN musical, on va dire. Ouais.
Ce qui est marrant, c'est ce que les gens... depuis qu'on a sorti Gravity, on a travaillé avec un très bon attaché de presse, Virginie Balavoie. Hello, Virginie. Et qui a vraiment aidé à les chansons à être entendues. Et c'est toujours intéressant de voir les retours et les gens qui écoutent vraiment. Ça fait plaisir. Mais parfois, les références qui nous étonnent nous-mêmes, à laquelle on n'avait jamais pensé.
Ah ouais.
Ouais.
Mais oui, mais parce que les gens se réfèrent à leurs propres références. Donc. Toi, tu n'y as pas pensé, mais peut-être que tu as un côté cranberries, sans le savoir.
I don't know.
Oui, mais les gens connaissent.
Eddie Vedder. Eddie Vedder, apparemment. Je ne sais pas, c'est compliqué parce que franchement, moi je ne fais que les mots, donc je ne suis pas très responsable de la partie musicale, sauf que évidemment, si je fais la musique avec Sylvain, c'est parce que la musique qu'il me propose me plaît énormément.
Oui.
Et ça correspond. Mais en la manière qu'on fonctionne, on a, peut-être après on dit oui, lui il va dire ah oui, j'ai imaginé ça un peu à la, you know, jouer à la tempête ou jouer à la ça, mais c'est jamais une considération qu'on compose. Et je ouais. pense que c'est pour ça que chaque chanson, en tout cas, je l'espère que chaque chanson a son petit univers.
Ouais.
Parce que on n'est pas à la recherche d'un truc dérivé. Je pense que pour moi, Chemical Love, c'est celui-là qui est le plus obvious.
Mais encore, tu ne chantes pas comme le chanteur d'ACDC. Hein.
Non, mais
même
dans
si j'avais voulu faire un morceau comme ACDC,
non, mais
ce qui est un peu le cas, c'est vrai.
Dans la musique, c'est quand même un clin d'œil à quelque chose qui était important. Mais moi, je ne peux pas... Je ne peux pas trouver de traces d'autres trucs dans nos chansons.
Mais c'est parfait. Ouais. Je joue comme ACDC et toi, tu chantes comme Johnny Mitchell.
Ouais. I wish. Ouais. J'aimerais bien.
Ah, plus Natalie Merchant, non?
Ah, peut-être
ouais. Je ne sais pas. C'est un défi. Alors, je ne me souviens plus, on avait des amis qui sont passés. Ils ont dit, OK, on va trouver à quoi ça ressemble la voix d'Angela. Et
c'était quoi leur premier choix?
Leur premier choix, c'était Carly Simon. Et ensuite, après avoir écouté, ils ont dit non. Et ensuite, je ne me souviens plus, Tracy Chapman, non. Et ensuite, moi, je les ai fait écouter 10,000 Maniacs, mais ils n'avaient pas compris. Parce que j'ai beaucoup aimé aussi, j'aime beaucoup 10,000 Maniacs.
Tracy et Chapman, Natalie un peu aussi. Merchant. Mais tu chantes.
Mais je viens de le dire.
Ah oui, ok. Mais tu chantes moins grave maintenant. Ouais. Quand tu chantes dans les graves, ça peut faire un peu.
I don't know. J'ai une voix un peu bizarre, mais bon, c'est la mienne. Quoi faire?
Alors, est-ce que vous avez des concerts prévus? Est-ce qu'il y a des dates prévues, des choses à venir?
Oui.
Oui, we have a big date. Et j'espère qu'on a une date avec vous tous.
Yes.
Pendant qu'on est. Non, ça, c'est l'instant pub pour lequel je devrais faire un jingle.
Ouais.
On va faire.
On n'a pas un sous le coude, là?
Non, mais ça va venir. On va faire notre concert de sortie. Ça va être un double concert de sortie. Au Café de la Danse à Paris, le vendredi 17 mars, Friday, the 17th of March, a concert that will change your life.
Wow.
That we hope will change our life. Et c'est avec un autre artiste qui s'appelle Helen, qui sort un album aussi ce vendredi, je crois, qui s'appelle Blue Wine. Donc, Blue Wine and Gravity, double affiche.
Enfin,
double
on sait pas si ça va être ce vendredi. Il sort le vendredi 17.
Qui est ce vendredi.
Oui. Mais oui.
Voilà.
Mais on ne sait pas.
Oui, mais bon. Donc, il a un double release party au Café de la Danse le 17
Super.
Mars.
Eh ben, c'est noté.
Et ça, c'est very exciting. We're very excited.
Yes, it is. So are we. On va terminer par écouter un titre. Donc, Gravity. Mais vous avez déjà... tout raconter sur l'histoire de ce titre, donc qui est aussi le titre de l'album. Wow. Lux et donc Angela, Sylvain, merci beaucoup pour cet échange.
Merci à toi, merci
et,
Antoine.
Et à bientôt sur scène, plaisir. Donc Café de la Danse le 17 mars.
Ouais.
Merci, à bientôt.
À bientôt.
Lune sur Onze, un podcast conçu et réalisé par Antoine Dubuquois. La musique du générique a été composée par Nezik. Pour plus d'informations, ou pour écouter les épisodes précédents, retrouvez-moi sur mon site, levolumesuronze.com.